Voilà. Oui, ça va.
What is this, Connor? Oh, easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Proprio fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles de la démesure, de l'amour XXL et du pouvoir sans limite. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, pour nous parler des films à l'affiche, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Olivier. Salut Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et de Mathieu.
Salut, salut.
Et bien sûr, à la technique, de Sylvain.
Bonjour.
Et derrière, Oscar. Salut Oscar.
Bonjour.
Ils viennent discuter de, notamment de The Apprentice, de l'amour ouf, on dira sans doute un mot de Megalopolis qui a déjà échauffé un petit peu le studio, et puis on dira un mot de l'Adamande, enfin sur l'Adamande qui est projeté lundi au navire. On se demande quand même un peu où est la folie, qui sont vraiment ceux qui ont perdu la raison. Folie, ouais. Outrance et démesure au programme de ce Cinémascope. Eh bien on commence de suite.
This is Donald Trump.
Donald Trump? Yes.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much.
Donald who?
Roy Cohn, nice to meet you.
The Roy Cohn from all the papers? Yeah, you're brutal.
Guilty as charged.
Roy Cohn is a crook. He's been indicted 3 times.
I'm gonna let you in on a little secret.
People, they hire me because I'm a winner.
How do you win?
The first rule is the simplest. Attack, attack, attack.
It's gonna be the finest building in the country. In the world. It's gonna be spectacular.
Ouais, la première règle, attaque, attaque, attaque. Le premier conseil de Roy Cohn à Donald Trump qui s'en est bien souvenu. The Apprentice de Ali Abbasi avec Sebastian Stan et Jeremy Strong notamment. Ali Abbasi, auteur irano-danois, c'est lui qui avait fait Les Nuits de Machad en 2022 et L'Étonnant Border en 2019, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui
oui,
mettait en scène...
Les Nuits de Machad, j'avais vu, ouais.
Ouais, et Border qui mettait en scène justement la frontière entre soi, l'altérité, la monstruosité. Et donc, moi, je suis très très intéressée d'avoir ton avis sur ce film, Olivier, parce que j'ai bien envie de voir... J'ai bien envie de le voir.
Oui, film qui m'a beaucoup intéressé et qui donne énormément à réfléchir, en particulier sur la manière dont on rend compte de l'histoire humaine. Pour avoir fait un peu d'études d'histoire, en Europe et ces dernières décennies, et en France en particulier, quand on étudie l'histoire, on laisse une large part aux phénomènes systémiques, sociologiques, économiques, etc. Et on a tendance à mettre l'événementiel et les singularités personnelles un peu au second plan. C'est un petit peu ce qu'on nous dicte aussi quand on fait de la critique littéraire, hein, on sépare l'œuvre de l'auteur, etc. Et donc on préfère souvent que les personnalités politiques soient vues comme des symptômes ou etc. Bon,
de leur époque.
De leur époque, voilà. Ce qui n'est pas faux, naturellement, mais ce qui détourne, à mon avis, l'histoire, l'historiographie d'une de ses vocations, qui est de penser dans le détail, de penser à la fois dans le détail et dans le global. Or, la biographie est peut-être pour cette raison-là le genre historique le plus noble, parce que à travers l'examen de la destinée d'un homme, on rejoint la destinée d'un peuple, d'un continent, de la planète. De ce point de vue-là, The Apprentice est une œuvre biographique d'un grand intérêt. Alors il se trouve que c'est pour que les auditeurs comprennent dans quelle ambiance je suis immergé pour parler de ce film-là. Il se trouve que je suis depuis quelques jours sur le livre de Barack Obama, une terre promise. Mm-hmm. Donc c'est 1300 pages sur ces 2 mandats présidentiels. Et donc on a un personnage, Barack Obama, qui est à peu près le contraire de Donald Trump, si vous voulez, et ces deux personnages sont les illustrations de ce que la culture américaine peut avoir de très très contrasté. C'est-à-dire d'un côté, on sait très bien que nos voisins américains de l'autre côté de l'Atlantique ont un souci de la perfection, du professionnalisme, des choses bien faites, etc. Ils sont créatifs, etc. Quand on ne connaît pas l'industrie, l'économie, etc., on en a quand même un aperçu, nous, ici, par rapport à la musique ou au cinéma. Quand ils font un film de genre, c'est bien fait, tout est en place, la photographie, le montage, le scénario, enfin voilà, c'est fabriqué et c'est bien fait, quoi. Ça, c'est un peu Barack Obama. C'est le mec qui, depuis sa campagne pour devenir sénateur de l'Illinois jusqu'à devenir... POTUS, President of the United States, tout est comment dirais-je, et puis avec un autre aspect de la culture américaine, une certaine religiosité, une certaine humilité quand même, pas trop se prendre pour le centre du monde, paradoxalement, voilà. Bon, Trump, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est un type qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui a été en permanence protégé du réel, par la fortune de son père, par l'éducation de son père, qui elle-même vient déjà de son grand-père.
C'est ce que montre ce film ?
Non, si. Enfin, on ne voit pas le grand-père de Trump, mais on voit son père, Fred, qui est un exemple typique, alors justement, de ce qu'on n'aime pas outre-Atlantique, à savoir la fin justifie les moyens, la politique est un moyen comme les autres. Le père de Trump fait fortune en détournant en quelque sorte les sommes versées par la ville de New York et l'État fédéral pour du logement social. Et il obtient aussi des prêts à taux zéro. Et il bâtit du logement social qui gère de manière, on a l'impression d'un avare de chez Balzac, vous voyez ce que je veux dire. Tout est bon pour faire une petite économie sur la peinture des fenêtres, sur les réparations de la tuyauterie, etc. Voilà, ça c'est le père de Trump. Et puis, il déteste son fils unique. Oui, une pourriture dans la mesure où il hésite, on ne sait pas exactement, mais il hésiterait n'aurait pas hésité à se mettre aussi avec la mafia new-yorkaise,
voilà,
du côté de Brooklyn, etc.
Il parle
de Brooklyn, où effectivement, bon. Et puis, donc, Donald arrive là-dedans et a tout à sa disposition pour être perpétuellement valorisé et n'avoir jamais à se mettre à l'épreuve de la réalité pour voir s'il a réellement ou pas une valeur. Donc, c'est un type qui grandit, mais un petit peu comme une plante qui grandit avec très peu de soleil, comme ça, vous voyez ce que je veux dire, tout blanc.
Ça, c'est excuse-moi, je rebondis parce que c'est très très intéressant ce que tu dis, qui ne s'est jamais confronté à la réalité.
Non.
Alors, c'est sûr qu'il a un rapport singulier à la réalité, Trump.
Il a pas de rapport à la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'il vit dans un monde qui est son monde, et une des conséquences désastreuses de cet état de fait, c'est qu'il n'a pas non plus de repères moraux réels. C'est-à-dire, en fait, il peut pas, n'ayant pas de contact non seulement avec les choses, mais avec les gens, de contact authentique avec les gens, il n'est pas confronté au ressenti des autres. Il n'est pas appelé à sentir la peine ou la joie des autres. Il est uniquement centré sur ses ressentis à lui. Par conséquent, il n'a aucune empathie. C'est une espèce de sociopathe qui a pratiquement des fonds illimités pour mener à mal tous les projets qu'il a envie de mener. Le symbole, c'est le passage de Brooklyn à Manhattan. Son père avait fait des affaires à Brooklyn, modeste, limite balzacienne, comme je le disais. Et lui, il traverse et il va à Manhattan et il commence le grand show, quoi.
Mais alors, Olivier, là, ce que tu nous racontes, c'est est-ce que c'est ta vision de Donald Trump ou alors est-ce que c'est ce que permet de comprendre le film ?
Alors,
revenons à The Apprentice.
Non, c'est tout à fait ce que permet de voir le film et ce que le film montre bien. Parce que le film, sa photographie, son montage, son décor, nous présente Brooklyn et Manhattan au début des années 70, à peu près au moment où Nixon est obligé de quitter la présidence. Et ça nous emmène jusqu'au tout début des années 80, Reagan, les années Reagan. Et sur ce, et le film rend compte de cette époque avec ce qu'elle a, et c'est un autre contraste, à la fois de misérable, c'est-à-dire que New York, début des années 70, c'est la zone. Brooklyn, c'est pire que le Bronx aujourd'hui, quoi. On a ça, mais on a en vis-à-vis cette volonté de paraître, que tout soit grand, que tout brille jusqu'au kitsch le plus absolu, et c'est des flots d'argent, mais d'argent qui n'a pas de valeur réelle. Ce sont des emprunts, ce sont ce sont des subventions,
encore une fois détaché de la réalité.
Complètement. Et alors cette analyse là, elle est faite en particulier, enfin il y a des journalistes du New York Times qui ont bien analysé cette période et cette façon qu'a eu Trump de raisonner avec son époque, c'est-à-dire avec ce cocktail de misère d'un côté donc qu'il va exploiter et de faste de l'autre côté qu'il va exploiter aussi, à travers lequel il va briller. Mais c'est sa nièce, donc la fille de son frère aîné, Marie-Louise Trump, qui a écrit un livre « Too much and never enough », trop et jamais assez.
Il y a quelques années, là, il y a 2-3 ans peut-être.
Oui, c'est ça, à peu près, oui. Où elle dit, la famille Trump, mon grand-père, on détruit mon père. Je voudrais pas que Trump se serve d'un deuxième mandat pour détruire aussi l'Amérique, quoi. Et donc, je suis un peu plus de la moitié du bouquin. Alors, lire ça en parallèle d'une terre promise de Barack Obama, je vous promets que, comme je disais à mon fils hier qui vit à Washington, c'est édifiant. C'est tout à fait édifiant.
Et alors, The Apprentice, est-ce que tu nous le conseilles ?
Évidemment, parce que justement, il est avec, bon, il se paye le luxe, le réalisateur, de nous montrer un Donald Trump au départ innocent, si vous voulez. Lui, il est pris là-dedans. Il serait pas un mauvais bourg a priori.
C'est pour ça, quand on parlait de monstruosité, Ali Abbasi, est-ce que il y a un côté justement créature de Frankenstein par Roy Cohn?
Oui, mais disons Roy Cohn est un petit peu le mauvais génie qui accompagne un dispositif Trump, son temps, sa famille, qui est déjà bien en place. Il ne vient que catalyser finalement le truc. Mais effectivement, Roy Cohn, c'est vraiment le génie de ce mensonge permanent, de cette logique de la fake news permanente, etc.
Super, merci beaucoup Olivier. Donc The Apprentice est à voir au navire, et la semaine prochaine il sera à Rosières. On continue dans le XXL, mais l'amour cette fois.
Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait.
Tu bosses pour moi.
Je peux te voir, Jackie?
Elle est mariée et elle est heureuse.
Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi?
Et c'est qui ce type?
T'as gâché toute ta vie comme ça.
C'est pas ma vie, ça!
L'amour ouf de Gilles Lelouch avec Adèle Exarchopoulos, François Civil, Mallory Vanek, entre autres, Élodie Bouchèze aussi.
Ouais.
J'ai laissé la bande-annonce complète hein, parce que, justement, il y a du souffle, alors, du c'est souffle.
C'est le mot que j'allais employer, tiens.
Du souffle, ouais. Quel... Ben, je suis moi aussi très intéressée pour entendre ce que vous avez à dire, Mathieu, d'abord. Donc, vous êtes tous les deux allés le voir. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Ben, j'avais très hâte de le voir. Au Festival de Cannes, ça faisait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup d'interviews, beaucoup de... Il y avait une façon de parler de ce film qui était assez large et je n'avais pas vu cette bande-annonce. Et là, je viens de l'entendre et ça me fait assez rire parce que... Parce que voilà, ils font tout pour le vendre avec une musique qui est complètement crescendo, qui emballe, etc. Mais le film a un rythme beaucoup plus intéressant. C'est pas en fait, bon, on va commencer par le début. C'est une histoire donc qui se passe dans les années 80 dans le nord de la France. C'est Jacqueline, surnommée Jackie, et Clotaire, deux adolescents qui vont se rencontrer sur les bancs du lycée. Et là, ben, Clotaire, c'est celui qui traîne, qui est le petit vagabond gentil qui embête tout le monde dans le lycée. Et Jackie, c'est la fille la fille d'une petite famille, voilà, une fille qui a perdu sa mère très tôt et qui pense à son avenir, quoi. Une étudiante, on va dire, plutôt banale, mais qui a aussi son caractère. Et les deux vont vivre une jolie romance de lycée. Et le temps va passer. Et il va y avoir des ellipses temporelles dans le film. Et l'un comme l'autre ne vont jamais s'oublier. Voilà, à peu près comme ça. Alors, quand je le raconte comme ça, on dirait une romance. Alors, c'est un film qui parle d'amour, heureusement, c'est dans le titre. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce film, c'est les différents genres de cinéma prêtés à la... aux différentes choses que Gilles Lelouch veut raconter. Par exemple, là, si je raconte le synopsis comme ça, on dirait un film romantique. Si maintenant je prends du point de vue du garçon, ça va être un film de gangster. Parce qu'à un moment, dans sa grande adolescence, voire une autre période de sa vie, voilà, ça va être une vie de mafia, on va dire, presque. Et si je raconte du point de vue... Oui, et aussi du garçon, ça va être un point de vue aussi sociétal. Bon, il y a tellement de choses à dire sur ce film. Et du point de vue de la fille, ça va être aussi l'enjeu de la famille et de l'avenir et comment on veut peut-être vivre dans cette société. Bon, beaucoup de sujets traités, mais je trouve jamais fouillis. C'est ça qui est complètement fou. C'est qu'il n'est pas là pour... donc Gilles Lelouch, dans sa réalisation, il n'est pas là pour dire... Vous voyez, les jeunes, ils peuvent tourner mal parce que derrière, il y a un contexte sociétal. Non, il montre de la façon la plus classique et en même temps avec un certain recul qui fait du bien. C'est-à-dire que, eh ben, en fait, intégrer une bande et se ramener avec un flingue pour braquer une banque, bah, c'est à la portée de tout le monde. C'est hyper facile quand on ne sait pas où aller parce qu'on rentre du lycée et on voit son père qui pleure parce qu'il s'est fait virer d'une entreprise de métallurgie dans le nord de la France et que sa mère, elle a tellement d'espoir sur ses enfants et elle rêve, en tout cas c'est pas elle qui le dit, mais son fils rêve de voir sa mère à l'aise financièrement parce que c'est une famille nombreuse, c'est à la portée de tout le monde. Être amoureuse de quelqu'un qui ne nous ressemble absolument pas et s'étonner d'être amoureux d'un délinquant, c'est à la portée de tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire qu'il y a un moment que l'on veut vivre dans cette vie et elle le vit pleinement. Et donc, il y a le jugement des autres, le jugement de sa famille. Il y a le côté, son père, quand il voit sa fille tomber amoureuse d'un délinquant, il se fait du souci. C'est à la portée de tout le monde qu'une famille peut se déconstruire à ce moment-là parce qu'il laisse pas sa fille vivre totalement ce qu'elle a envie de vivre. Le côté des grèves, le côté... il est là juste pour... il sert de décor, mais en même temps, il a un message fort. C'est ça que je trouve qui est incroyable. Après, dans l'image, j'ai trouvé ce film complètement dingue. La colorimétrie, je sais pas si avec quoi il a été tourné. Je ne me suis pas renseigné, mais il y a du grain, il y a, je ne sais pas si c'est une pellicule ou si c'est un autre effet de style ou quoi.
Une intensité des couleurs, par
exemple. Oui, une intensité des couleurs. Et j'ai l'impression qu'il change même de colorimétrie à un moment, en tout cas d'aspect. Genre, j'ai parlé de différents genres du cinéma, mais à un moment, on est presque dans le genre policier avec des contrastes forts, quelque chose de sombre. Après, on est dans le film adolescent avec cette musique, cette bande-son de The Cure qui revient. Waouh, on se balade dans ce film qui dure quand même pas, moins de 3 heures, 2h40, quelque chose. 2h40, ouais. Et c'est, voilà, c'est entre choqué. Comme les plans qui nous pètent à la tronche au cinéma avec des vues incroyables, la musique, la bande-son, tout arrive là, tout est là pour...
Tout est un peu adolescent, presque. Enfin, dans la manière dont...
Non, pas du tout.
Il y a une grande maturité de réalisation.
D'accord. Et c'est ça. Et mention spéciale, parce qu'on parle tout le temps de... Moi, ça a été la surprise de ce film, d'ailleurs. Adèle, de François Civil, etc. Mais en fait, mais les acteurs, j'ai pas le nom, mais les jeunes acteurs. Alors, au début, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ouh, ça sent le petit film ado. Je savais pas si la fille a joué un peu mal ou le garçon aussi. Mais en fait, je crois que c'est totalement assumé dans le style. On est. Parce qu'après, on a la réalité de l'adulte, quoi. Comme j'ai dit, il y a des ellipses temporelles. Et là, c'est là où on voit François Civil et Adèle, et un peu le casting phare. Et Benoît Poulvord, dans ce registre-là, il est
incroyable.
Bon, je dirais pas que c'est le film parfait, vous voyez. C'est, je dirais juste que c'est un film qui fait du bien parce que ce qu'il raconte, il le fait très bien. Et ça parle cinéma. Des fois, ça pourrait être un défaut de penser ça. Des fois, on sort du film parce qu'on sent que le caméraman, on va dire Gilles Lelouch qui donne, je sais pas si c'est lui qui tenait la caméra, mais la direction de caméra, elle change. Et d'un coup, ça devient une caméra genre face où le personnage va parler face caméra. Alors que jusqu'à maintenant, on était dans une caméra posée dans un coin. On regarde du cinéma. On est là parce que quelqu'un a une intention. Il prend la caméra à la main. Tu l'as senti, spectateur. Ben ouais. Alors peut-être certaines personnes, ça peut dire « Ah, c'est un peu spécial. » Ben ouais, c'est un peu spécial. Mais putain, là, on fait du cinéma et moi, ça me plaît, quoi. Donc, allez voir ce film.
Ça t'a autant emballé, Olivier ?
Moi, je suis emballé aussi par ce que dit Mathieu, parce qu'il a des compétences que j'ai pas et qui me permettent de comprendre ce que j'ai aimé dans ce film sans vraiment pouvoir le dire. Ce qu'il vient de dire sur la colorimétrie, sur les différents usages de la caméra, etc. Il a évidemment entièrement raison. Et ça donne évidemment à ce film une richesse qui risquait de devenir un chaos, qui risquait de devenir une désorganisation, etc. Et en fait, pas du tout. Et je crois que c'est un moment, tu le dis, tout est assumé, tranquillement. Tous les différents cinémas qui sont ajoutés les uns aux autres sont assumés et en tant que tels, donc, intégrés. Et il y a un autre genre qui est utilisé, qui est la comédie musicale. Hein. On a presque une sorte de petit pastiche de West Side Story parce que on est sur les quais de Dunkerque ou de Calais Maritime, je sais pas exactement. Et on a des scènes qui peuvent s'apparenter aux scènes d'opposition entre les deux tribus de West Side Story.
Je sais pas si ça t'est pour rebondir sur ce que tu dis, si t'as ce plan là, mais tu sais, cette bande de gars qui est filmée en contre-plongée,
ouais,
quand ils arrivent, tu vois, dans l'écran, tu vois le ciel, tu vois les gars marcher, exactement. Tu vois même pas la route, ils sont là comme ça,
exactement. Ouais,
j'ai même pas pensé à ça, tu le dis.
Donc l'importance de la musique et même des scènes chorégraphiées. Moi, j'ai eu un peu peur quand on les voit jeunes commencer à danser tous les deux pour remplacer des images de gestes amoureux, etc. On se dit, il faudrait peut-être pas en faire trop, quoi.
En fait,
ça passe. Et souvent, moi, quand je vais voir un film en partie pour Cinémascope, quand je me dis bon, qu'est-ce que tu vas raconter, quoi, je pars de ma première impression, et ma première impression, elle a été comme si le film avait répondu à une inquiétude que j'avais au départ. C'est purée, quand j'ai été le voir, je me dis purée, c'est long quand même, 2h40. Et en fait, quand le film, on dit souvent ça, mais là c'est vrai quand on le dit, mais là c'est particulièrement vrai, c'est-à-dire que quand le film s'est achevé, j'avais l'impression d'avoir assisté à un film d'une durée classique, parce que j'étais complètement dedans, ou à plusieurs films d'une durée classique, effectivement.
Ça s'apparente à plusieurs films. Il y a un côté très... très série, presque. Le découper, ce film.
Le découper complètement,
En laissant un petit cliffhanger pour avoir hâte de retrouver les personnages 10 ans plus tard ou quoi. Hein.
Et alors justement, pour introduire la critique entre guillemets de ce film, tu parlais de souffle et c'est la deuxième réponse que je me suis faite. Il y a un souffle particulier dans ce film et moi qui suis pas expert du tout en cinéma, mais qui connaît un peu mieux la littérature, j'ai retrouvé le souffle romanesque des grands romans.
Ouais. Des grands feuilletonesque presque.
Alors éventuellement feuilletonesque, mais pas nécessairement. Mais des grands romans qui couvrent, comme l'a expliqué Mathieu, une grande partie de l'existence des personnages, avec éventuellement des ellipses temporelles. J'ai pensé à Manon Lescaut de l'abbé Prévost, j'ai pensé aux affinités électives de Goethe, j'ai pensé également à Madame Bovary, et puis une dimension qui, enfin, il y a quelque chose qui s'introduit en plus encore, une petite allusion à un monde merveilleux. C'est-à-dire, il y a des coïncidences spatio-temporelles, l'éclipse de soleil, etc.
Oui, très beau,
qui, ouais, magnifique. Qui nous font nous pencher du côté du merveilleux et du surréalisme. Et donc, j'ai pensé aux grands romans d'Aragon, comme Le Paysan de Paris, Aurélien, Anicet ou Le Panorama. Et donc, je crois que ce qui fait un petit peu la vis centrale du film, c'est ce souffle romanesque qui éventuellement pourrait être le souffle romanesque d'un roman feuilletonesque.
C'est ça. En fait, il y a tellement de choses à dire sur ce film. Je suis content d'avoir le temps d'en parler, en fait. Mais tu vois, l'éclipse solaire, elle est vue d'un point de vue cinéma adolescent, récit adolescent, ouais, sur les débuts. C'est réconfortant, c'est mignon, ça donne envie de tomber amoureux et partager ça. Et après, c'est revu plus tard. Et là, en tant que spectateur, tu te dis, bon, comment ça va être? Est-ce que ça va être nièvre? Est-ce que ça va être... Et en fait, je trouve que...
Il s'en sort.
Il s'en sort très bien parce que... En fait, là, c'est la vie. Tout ce que l'on vit, nous, en tant qu'adultes, eh ben, provient du contexte de notre enfance, c'est-à-dire inconsciemment, etc. Et dans ce film, on le ressent. On a le droit de rêver, on a le droit de se retrouver devant un moment qui nous fait penser à notre passé où on avait plus d'étoiles dans les yeux. Et le but de la vie, en fait, c'est de garder ses étoiles.
Et on a le droit de vouloir continuer l'histoire.
Exactement. Et on a le droit de se dire, bah ouais, cette histoire amoureuse, elle a duré 6 mois sur les bancs de la fac, mais elle m'a marqué à jamais. Et il y a un côté qui est très... déjà, une éclipse solaire, c'est lunaire. Oui, c'est rêveur, lunaire. C'est pas ce que je voulais dire à la base. Mais oui, c'est quelque chose qui est un peu magique. Et alors bon, il y a des moments qui sont touchants. Il y a quelque chose qui donne envie de tomber amoureux dans ce film. Et il y a aussi quelque chose qui nous dit qu'en fait, c'est OK avec la vie qu'on a eue par le passé et qu'on peut refaire sa vie aujourd'hui et être extrêmement nostalgique. C'est pas le mot que je trouverais, mais
on peut continuer.
Parce que ça nous construit.
Voilà, et en fait, donc juste. Alors, il faut absolument pas du coup spoiler, mais le début du film, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, c'est la fin. Le début du film et la fin du film répond exactement à ça. C'est que on a le droit de continuer et je pense que ce qui sauve des vies, c'est l'amour et les choix que l'on fait dans la vie. Voilà.
Il y a une scène, scène finale dont je dirai rien, mais qui est un bijou. À mon avis, il y a des chances qu'elle tourne sur YouTube, celle-là.
D'accord. Voilà, une expérience du temps, peut-être. L'amour, ouf. Donc, vous nous avez donné envie d'aller le voir, et ça tombe bien, il est distribué un petit peu partout en Ardèche, notamment au navire à Privas, à Rugons.
Quel casting.
Allez, il nous reste 5 minutes. On peut parler rapidement peut-être de Mégalopolis. Est-ce que c'est facile de parler de Mégalopolis?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le
film de Francis Ford Coppola, donc qui est sorti déjà il y a un petit moment, dont on ne vous avait pas encore parlé et qui est encore à l'affiche dans de nombreux cinémas.
Oui, on peut en parler très simplement et très paisiblement. C'est pas du tout la question. Mais bien sûr que si. Mais simplement, les avis sur ce film sont très tranchés. Ça, c'est clair. De la part de gens qui ont adoré Le Parrain et Apocalypse Now, etc., on a des avis très tranchés et très divergents. Hein. Bon, moi, je fais partie de ceux, c'est clair, qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, aimé ce film, qui m'a donné l'impression de me prendre pour 120 millions de dollars d'images pour rien. Après, d'autres personnes ont d'autres arguments pour faire valoir peut-être une nouvelle écriture, une nouvelle, presque un nouveau départ pour Francis Ford Coppola, j'en sais rien. Moi, ça m'a donné l'impression d'un testament raté, quoi. Oui.
De vide.
Ben, moi, je ne l'ai pas vu, mais on en parlait juste avant que l'émission commence. J'ai très hâte de le voir. Je crois que même c'est le film. Si L'Amour Ouf n'était pas sorti mercredi, je l'aurais vu. Ouais. C'est le film dont j'ai le plus envie de voir parce que. Bon, il y a ce fameux réalisateur quand même, Coppola, mais il y a aussi le fait que derrière un film, quand les avis sont aussi... je veux dire, en fait, c'est simple à comprendre, tu vois, tu l'as résumé en deux minutes, on sent, et puis les avis convergent vers la même direction. J'ai très hâte de savoir ce qu'il a voulu nous raconter, parce que je ne peux pas croire qu'un réalisateur avec autant de budget, d'acteurs, de casting, de tout ce que l'on veut, puisse raconter un néant. Même dans le néant, moi, je crois à l'intention cachée ou au ressenti émotionnel qu'on peut avoir avec rien. Vous voyez, le récit qui commence par la fin et qui te raconte un truc où t'as rien compris, mais au final, t'as ressenti des choses. J'ai très hâte de le voir. Voilà.
Mais donc, tu fais plus confiance au spectateur qu'au réalisateur. Parce que en tant que spectateur, on peut trouver matière à rêver, à penser un peu sur tout.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça. Ben, moi, j'ai très hâte de le voir, je peux pas en dire plus. Mais
écoute, quand tu l'auras vu, tu viens nous en parler ici.
C'est une merde.
On passe à l'agenda, et pour commencer cet agenda, lundi, donc on disait en début d'émission, lundi sera diffusé, enfin sera projeté sur les écrans du navire, sur la Damante de Nicolas Philibert. Olivier, est-ce que tu peux nous en redire un petit mot ?
Oui, absolument. C'est un film qui m'avait beaucoup marqué pour des tas de raisons. D'abord, il est très bon techniquement. C'est un très, très bon documentaire. Bon, Nicolas Philibert nous a habitués maintenant à ça. Le sujet est passionnant puisqu'il s'agit de la prise en charge de la maladie mentale. C'est ce sujet donc abordé sous un angle qui me paraît, bon, évidemment, à développer, à creuser tout ce qu'on voudra, et puis à alimenter par des crédits, enfin, tout ce qu'on voudra, à savoir que c'est la prise en charge de la maladie mentale et le soin en milieu dit ouvert. L'Adamant, c'est un navire sur lequel des gens qui ont des grosses difficultés, des grosses, grosses difficultés psychiatriques, viennent pour s'y livrer à différentes activités. Ils sont en mode coopérative, etc. Donc, c'est très, très... Et alors, ça donne la parole aux gens qui vont pas bien du tout. Et ça nous permet de toucher un peu du doigt leurs difficultés qui, souvent... ne sont pas si éloignés des difficultés que nous éprouvons tous par moments dans la vie, quand nous sommes angoissés, déprimés, quand nous avons une phobie, une obsession, enfin, etc. Là, on la retrouve évidemment agrandie et prise en charge par des gens qui sont compétents et qui... Voilà. Donc, c'est un film qui est d'abord intéressant, ensuite beau et profondément humain. Donc je le conseille vraiment vivement. Ouais.
Oui, et je n'ai pas vu, je ne sais pas si toi tu les as vus, les deux autres films, parce que ce film sur la Damante fait partie d'un triptyque qui s'appelle La Machine à écrire et Averroès et Rosa Parks.
Je les ai pas
là
vus.
Qui là sont plus au cœur de l'institution.
De l'institution.
Enfin, pour Averroès et Rosa Parks.
Oui, tout à fait, mais je les ai pas vus.
Je profite parce qu'on parle de maladie mentale et de santé mentale pour dire qu'à partir de début novembre, Fréquence 7, tous les premiers lundis du mois, diffusera une émission longue curieuse avec pour rédacteur en chef les participants de l'atelier de l'hôpital psychiatrique de Privas, qui s'appelle l'écho de la réhab. Donc on aura leur vision justement du monde.
Je pensais à ça en parlant sur la Damant. Ouais.
Voilà, donc ce sera à retrouver bientôt sur les ondes de Fréquence 7. Avant de se quitter, quand même quelques petites choses, parce que ce soir au cinéma, il y a plusieurs diffusions qui sont intéressantes. intéressante. Il y a un film qui n'a pas été diffusé, il me semble, hein, à Aubenas, et qui passe à Tueil, grâce à la Maison de l'Image. C'est Ma vie, ma gueule, le dernier film de Sophie Filière, qui a été terminé par ses enfants, avec Agnès Jaoui, une sorte de roublardise poétique qui traite joyeusement de la mort, que je n'ai pas vu, mais hâte de voir. Alors, donc, c'est ce soir à Tueil à 20h30. Ce soir aussi, il y a au cinéma Le Navire la projection débat So Young But So Cold, un film de Otto d'Emmanuel, un documentaire qui revient sur toute la scène musicale nancéenne des années 80 avec Caisse Product, mais pas que. Et ça, c'est dans le cadre de la scène, enfin de l'événement sur la scène post-punk des années 80 présenté par Le Bourneau.
Donc, c'est jeunesse.
Ce soir. Voilà, ce soir à 20h au cinéma Le Navire, pour vous dire aussi que les cinémas d'Utaï et de Cruas réouvrent aujourd'hui. Ils avaient été fermés quelques temps. Et puis on termine simplement un petit rappel. Dimanche, dans le cadre du festival Images et Paroles d'Afrique, le MRAP propose deux films. Donc ce mercredi, c'était sur le Maroc. Et là, dimanche, ce sera autour du Sénégal avec Dahomey, un film documentaire de Mati Diop. Et puis Banel et Adama. Voilà. Eh bien, c'est la fin de ce Cinémascope. Merci beaucoup.
Merci
Mathieu, et merci Olivier de nous avoir donné encore envie d'aller au cinéma et de voir des films et de parler des films, parce que ça aussi, c'est bon. Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain Cinémascope. Ciao.
Ciao.